L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, à midi en direct et en rediffusion à 18h. Vous le savez, sur nos ondes, il est souvent question de terre, d'agriculture et aussi de mer, les sciences marines. On reçoit des scientifiques, mais aussi des gens qui travaillent la terre. Mais c'est vrai qu'on fait rarement le lien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce lien au travers d'un projet qui concerne totalement notre territoire, puisqu'il concerne la rade de Brest. Ce projet a pour nom TerraRade. En fait, c'est le contrat territorial de la rade de Brest et des bassins versants de l'Aulne et de l'Élorne, copiloté donc par Brest Métropole, le syndicat de bassins versants de l'Élorne et l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne, à savoir les PAGA. On vous a déjà parlé de ce contrat de rade avec des élus, avec des gens des deux syndicats. Mais cette fois, on va prendre de la hauteur avec notre invité, qui est écologue, biologiste marin Olémar. On l'avait déjà reçu pour son livre sur l'histoire du littoral de Bretagne. Et cette fois, il a une autre casquette, celle de président du comité scientifique du contrat de rade. Bonjour Yves-Marie Paulet.
Bonjour.
Alors, pourquoi est-ce que c'est vous le président du comité scientifique?
Pourquoi est-ce que c'est moi? Bonne question. Parce que mes collègues m'ont gentiment désigné pour remplir cette tâche. Non, je crois que c'est... Sérieusement, c'est parce que j'ai une certaine expérience de ce système Rade de Brest. J'ai commencé dans les années 80, donc c'est pas tout à fait jeune, à regarder un peu comment fonctionnait cette Rade de Brest en travaillant essentiellement sur une espèce très, très emblématique qui est la coquille Saint-Jacques. En fait, j'ai même fait ma thèse, donc là je remonte très loin, sur la coquille Saint-Jacques, sur ses difficultés parfois à se reproduire, à s'alimenter. Et puis, ce qui s'est passé d'important, si on pense Rade de Brest, c'est qu'on a découvert dans les années 90-95, je crois, avec des collègues du laboratoire, on découvre que la coquille Saint-Jacques a des problématiques de croissance, des arrêts de croissance au printemps, des choses bizarres qui sont en train de se passer. Et bien finalement, on s'aperçoit que c'est problématique d'une espèce vraiment marine. La coquille Saint-Jacques, elle n'aime pas l'eau douce du tout. Et que tous ces problèmes de croissance qu'a la coquille Saint-Jacques, ben, ils viennent de l'eau douce et ils viennent des bassins versants. Donc je suis plutôt de formation océanographique. Moi, je suis dans l'eau salée. Mais de manière absolument évidente, les questions et mon intérêt va vers les eaux douces qui débouchent dans la mer. Et c'est une époque, on voit vers les années 2000 et un peu plus, que quand on parle de l'océan, petit à petit vient l'idée que les soucis de l'océan sont avant tout des soucis venant du continent. Si vous allez dans les années 2010 à Bruxelles, dans les réunions, etc., sur l'océan, auxquelles je participais pour certains aspects, chemine l'idée que l'avenir de l'océan dépend du territoire, dépend du continent. Et si on doit retenir un chiffre un peu pour avoir une idée de ce que ça représente, ces impacts continentaux sur l'océan, on estime que 80% des problèmes de l'océan viennent de la Terre.
C'est d'ailleurs le même chiffre pour les déchets plastiques, je crois.
Eh bien justement, et c'est là où on voit les déchets plastiques sont arrivés là-dedans, à ce moment-là à peu près, comme une vraie problématique.
Bien visible.
Bien visible. Ouais. En fait, c'était une sorte de marque. Les plastiques sont un marqueur de cette influence de la Terre sur la mer. Il y a plein d'autres choses qui passent. Il y a plein de molécules qu'on ne voit pas. Mais les plastiques, on le voit. Mais ils prennent le même trajet que les polluants qu'on ne voit pas, ou que les nutriments qu'on ne voit pas. Donc voilà. Donc je suis océanographe travaillant sur des espèces marines, sur les écosystèmes marins. Mais finalement, on ne peut pas ne pas évidemment s'intéresser à ce qui se passe sur les bassins versants. Donc voilà, c'est pour ça que mes collègues ont dû dire « Ah ben il est pas mal, il connaît un peu de choses là-dessus. » Et il va organiser ce comité scientifique de 24 personnes.
Oui, voilà, il y a quel genre de scientifiques il y a?
Nous sommes 24. Alors, c'est très, très varié, avec une volonté dans TerraRade de ne pas seulement être une réunion de scientifiques des sciences de la nature, sciences plus ou moins dures, expérimentateurs. Il y a aussi des chercheurs des sciences humaines et sociales.
Ça, on va en parler, parce que c'est très
sociologue,
important.
Sociologue, anthropologue, etc. Parce qu'on voit que les sujets, ils sont interconnectés. Et puis que globalement, face à la complexité des défis que l'on a à relever, c'est pas une discipline qui va régler le sujet. Donc, une ouverture disciplinaire très importante. Donc, 24 chercheurs, brestois et pas que brestois, avec des spécialités, mais qui se retrouvent régulièrement pour pour orienter, pour aider la mise en place et pour éventuellement évaluer à un certain moment ce contrat de territoire.
Il faut peut-être dire quel est le but quand même du contrat de rade, c'est quoi c'est...
Alors, oui, le but, il est assez clair quand on regarde les fondamentaux de la création de ce contrat de rade, c'est restaurer la rade de Brest.
Voilà, la rade
de Brest, voilà, sa qualité, retrouver un écosystème fonctionnel, nourricier, agréable à vivre. Et ça, donc, c'est l'objectif du contrat de territoire.
Et elle souffre de quoi, essentiellement, cette rade, alors ?
Alors, bon, la rade, si on prend un tout petit peu de recul, c'est un système qui est identifiable comme un écosystème très riche en biodiversité et un système très productif. Pourquoi ? Parce que, finalement, la rade de Brest, c'est un morceau de la mer. C'est clairement de l'eau de mer. Hein. La rade de Brest, ça n'est pas ce qu'on appelle un estuaire. C'est de l'eau de mer qui rentre. On estime qu'à chaque cycle de marée, donc toutes les 12 heures, c'est un tiers du volume qui sort
ah oui,
et qui re-rentre.
C'est pas si fermé que ça.
Et on a deux grands bassins versants et deux grandes rivières, les Lornes et l'Aulne, l'Aulne étant la plus grande, qui vont se déverser dans cette petite cuvette marine qui vont l'enrichir. Quand tout va bien, c'est un milieu riche parce que la terre apporte des éléments vitaux pour cet écosystème. Mais les débits sont faibles. Pour essayer de se rendre compte que les fleuves, ça n'est pas la Loire, ça n'est pas la Seine. Si on vidait complètement la rade de Brest de son eau, on barrait l'entrée, il faudrait un an pour que les fleuves la remplissent.
C'est pas
l'Amazone.
Hein. Non. Pourtant, il y en a beaucoup, mais ils sont petits.
Mais donc, c'est un mélange assez fin entre essentiellement de l'eau de mer et un peu d'eau douce qui apporte des aliments nutritifs d'intérêt. Donc ça, c'est la rade de Brest, on va dire, comme on dit nous, pristine, c'est-à-dire le système avant que l'homme le dégrade profondément. Donc il était productif, très riche en espèces, et on y trouve des espèces vraiment marines. La coquille Saint-Jacques, c'est une espèce marine. Le pétoncle noir, le pétoncle blanc qui était riche, ce sont des espèces marines. Donc c'est la mer enrichie de manière assez délicate par deux fleuves côtiers que sont l'Aulne et les Lornes. Et donc, si on refait l'histoire, mais on commence à y voir un peu mieux, elle a réellement, cette rade, fait vivre des communautés de pêcheurs, de manière importante. Aujourd'hui, quel est le problème ? C'est que les ressources sont effondrées, que ce soit la coquille Saint-Jacques, le pétoncle, les deux pétoncles, le noir et le blanc, l'huître, etc., ça ne va plus. Ça ne va plus du tout, donc ça, c'est un grand sujet. Et puis, deuxième question qui nous saute aux yeux, c'est que un des systèmes les plus emblématiques de la rade, j'ai parlé tout à l'heure d'une espèce emblématique, la coquille Saint-Jacques, mais là, je parle d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble d'espèces, c'est le merle. Eh bien, ce merle, dans plusieurs points de la rade, il est très dégradé, très dégradé. Donc, on a une perte de la richesse, de la spécificité, de cet écosystème réellement exceptionnel.
Et on sait depuis quand à peu près
Alors c'est là où ça devient intéressant quand on commence à regarder l'histoire. En fait, on avait des idées un peu simplistes, je dirais, parce qu'on n'avait pas creusé, mais on disait, voilà, bon, y a la coquille Saint-Jacques. C'est la rade de Brest. Hein, on mettait sur les cartes de France, quand on était gamin à l'école, quasiment, il y avait la rade de Brest avec sa coquille Saint-Jacques dessinée dessus. Et en fait, quand on commence à regarder ça de plus près, on s'aperçoit que non, l'histoire, elle est un peu plus longue que ça, et qu'il y a seulement un siècle et demi, au 19e siècle, on ne pêchait aucune coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Et la richesse au 19e siècle de la rade de Brest, c'était l'huître plate. Mais une très, très grande richesse.
Mais qui, elle aussi, a disparu. Enfin, quasiment,
voilà, qu'est-ce qui se passe au 19e ? L'huître plate, c'est l'essentiel. Il y a des centaines de bateaux à draguer l'huître plate. Et puis, on voit, vers 1845, 1850, des signes de faiblesse sur l'huître. Et finalement, un effondrement quasiment général vers la fin du 19e siècle. Mmh. Et là, on commence à voir la coquille Saint-Jacques. Alors, je ne sais pas si elle s'est installée à ce moment-là, mais commencer à être pêchée. Et devenir intéressante pour les pêcheurs, parce qu'il n'y avait plus d'huître.
En substitution, en fait.
Voilà, en substitution. Ouais. Donc, c'est pas une histoire toute simple. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des crises, il y a des effondrements, il y a des reprises. Et finalement, l'image un peu idyllique que certains peuvent avoir, enfin qu'on avait peut-être de la rade de Brest et de la coquille Saint-Jacques depuis la nuit des temps, etc. Bah non, c'est une histoire bien plus compliquée que ça, avec probablement dès le 19e, des surpêches qui font s'effondrer l'huître. Et puis, on a quasiment la répétition générale de ce qu'on a vu sur l'huître. On le voit sur la coquille Saint-Jacques, avec un effondrement de la coquille Saint-Jacques qui sera extrêmement clair dans les années 60, 1960 maintenant, de notre siècle, et un effondrement, une quasi-disparition de la coquille Saint-Jacques, et évidemment un maintien, pas évidemment, mais par le génie humain, je dirais, le génie des pêcheurs et de scientifiques qui s'associent, la mise en place d'un système très très original où on va produire des bébés coquilles Saint-Jacques, c'est ce qui se passe à l'écloserie du Tindouf, hein, piloté par le comité des pêches, production de petites coquilles Saint-Jacques et de semis. Alors ça n'a pas fait repartir un grand gisement, mais ça maintient une activité et c'est complètement original, et ça on pourra en parler longuement, mais c'est une forme de révolution finalement. On n'est plus seulement cueilleur, on va entretenir, on va semer. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu rapide, mais la révolution néolithique de la mer. C'est-à-dire qu'on commence à contrôler, à cultiver la mer, à jardiner la mer. Et ça, c'est ce qui se passe à Brest avec l'écloserie du Tindouf et les semis de Coquille Saint-Jacques. C'est absolument exceptionnel. Hein. C'est pas, en France, il n'y a pas l'équivalent. En Europe, il n'y a pas l'équivalent. On est sur quelque chose d'extrêmement original qui tient la route. Et en plus, qui marche sur un modèle coopératif. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais voilà, donc la rade de Brest va mal. On fait des choses. On peut relancer des petites activités. Mais l'huître plate, par exemple, pour l'instant, on n'arrive pas à la relancer.
Alors qu'il y a des parcs à huîtres, mais en fait, ce n'est pas l'huître
plate. Il y a des parcs à huîtres. Il y a des parcs à huîtres. L'idée, c'est de relancer l'huître. Alors, il y a l'huître creuse, évidemment, qui a pris la place. L'huître plate, elle est là de manière naturelle. Et c'est quand même une chance. On a encore des petits bancs naturels. En rade de Brest, et beaucoup de personnes, pêcheurs et scientifiques, pensent que la rade de Brest peut être le lieu du redémarrage de l'huître plate. Mais une fois de plus, il faut gérer la qualité de l'eau, il faut gérer la façon dont on utilise la rade de Brest, la façon dont on y envoie des engins de pêche, des bateaux, etc. Donc il faut vraiment ce projet. Et donc,
D'où l'intérêt déjà d'avoir des historiens comme Lucas Bosboeuf.
Lucas Bosboeuf, donc historien qui va bientôt terminer sa thèse sur la rade de Brest, est extrêmement intéressant parce que c'est en plus lui qui va montrer que dans son travail, finalement, les productions marines, si on remonte de quelques décennies et de quelques siècles, étaient essentielles pour l'agriculture. Et ça, c'est intéressant parce que finalement...
Il faut se remémorer ça parce qu'on a vraiment oublié.
Il y a une espèce de flèche, je dirais, positive à l'époque. Aujourd'hui, quand on parle terre-mer, c'est quand même
c'est
tendu.
Hein. Ouais, c'est clair.
C'est plutôt assez négatif.
Ouais, les conchyliculteurs qui ne sont pas contents, les agriculteurs.
Mais
et puis,
on démarre sur un système où pour développer une agriculture productive, ce qui était le cas assez tôt, en 19e, eh bien, il fallait de l'engrais, il fallait modifier la chimie du sol. Et en fait, Lucas Bosboeuf montre bien qu'on utilisait trois ressources marines qui ont formé le sol, qui ont fait un sol fertile dans la région, jusque loin dans l'intérieur. Ces trois éléments, ce sont le premier, le goémon. Un goémon, ce qu'on appelle le goémon rouge, qui était pêché très très abondamment en rade de Brest. Le merle, alors une algue calcaire, extrêmement utile pour modifier la chimie du sol et sa richesse.
Pour que ça soit moins acide, en gros.
Voilà. Et le troisième, les sables coquillés, qui étaient pêchés non pas dans la rade, enfin peu dans la rade, mais surtout au minou, à la sortie de la rade.
C'était pour aérer, là, le sol plutôt,
c'est ça, c'est pour casser. En fait, ça, on apporte de l'alcalinité, on apporte de la physique des particules différentes, et on fait un sol qui devient plus fertile.
Sauf que ces ressources-là aussi sont... Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour le goémon, mais
Alors, sur le merle, on a atteint assez rapidement des limites, parce que le merle, on pensait... C'est assez intéressant quand on lit les écrits jusqu'au début du XXe siècle, que ça poussait très vite, que ça se renouvelait, donc on pouvait pêcher. En fait, bon, il a fallu un petit peu de temps, mais les scientifiques ont montré que c'était de l'ordre de la fraction de millimètre chaque année. Donc, à l'échelle humaine, le merle n'est pas une ressource renouvelable. Oui, à l'échelle des millénaires, pas à l'échelle...
Enfin, c'est comme le pétrole,
quoi. Donc, voilà. Donc, on a mis à sac une grande partie des bancs de merle. Et donc, finalement, on a dû interdire complètement la capture de la pêche du merle. Et les bancs se reforment tout doucement, se refont, si la qualité de l'eau est bonne. Parce que si on prend la rade, parce qu'on imagine un peu deux parties, le sud de la rade, le nord de la rade. Le nord de la rade, il y a des bancs importants de merle devant, on va dire, devant le port de commerce, Keraliu. Grosso modo, la sortie de l'Elorne. Ces bancs-là sont fortement impactés par les activités humaines. Si on veut trouver des bancs en bon état, il faut aller au large de l'Oberla, l'Anvéoc, etc. Là, on trouve des bancs en bon état. Donc, tout n'est pas encore parfait pour que le merle se remette en place. On voit bien qu'il y a des endroits où ça ne marche pas. Et le merle, ce n'est pas qu'une un petit brin de calcaire rose, etc. Ce sont les centaines d'espèces.
Oui, c'est des récifs, hein,
voilà,
avec
ça
la vie.
Ça forme une structure tridimensionnelle extrêmement riche, où les larves de poissons, les larves de bivalves vont s'installer, vont grandir, etc. S'il n'y a plus de merles, ces espèces de nurseries, finalement extrêmement productives, mais à un point qu'on considère aujourd'hui que les bancs de merles et les espèces qui accompagnent le merle, c'est probablement les plus hauts niveaux de biodiversité marine en Europe. Hein. C'est quelque chose de tout à fait considérable. Eh bien, si on menace ça, et si on n'est pas capable aujourd'hui de les rétablir, ne rêvons pas, il n'y aura pas de retour de la ressource.
Et sinon, le goémon et le sable coquillé, c'est pareil, c'est des ressources épuisables.
Alors, le sable coquillé, l'exploitation également a été très très limitée pour des raisons, en fait, on va appeler ça de géomorphologie, de répartition des stocks de sable et d'érosion.
Ouais,
donc on peut pas prendre n'importe quoi, n'importe où, ça a forcément des conséquences. Et sur le sable coquillé, on l'exploite toujours, mais il y a de fortes régulations. Mais ça aussi, c'est à des échelles de temps géologiques. Hein, mm-hmm. Parce que le sable coquillé, c'est une matière morte. C'est des fragments de coquillages qui forment des dunes sous-marines. Et on ne peut pas taper dedans n'importe comment. Elles ont un impact sur les houles, elles ont un impact sur l'érosion.
Avec la mer qui attaque la côte.
Ah ben c'est clair. Ouais. Alors le goémon, c'est un peu différent en fait. Le goémon, il y a du goémon en rade, il y en a toujours du goémon rouge, mais son exploitation menace pas mal d'autres espèces associées. C'est un peu le même problème, hein, parce que le goémon rouge, quand il pousse, eh bien il abrite des petits crustacés, des petits poissons, etc. Donc on a également limité la pêche au goémon rouge. Et en fait, pour le goémon, il y a eu un report sur le goémon de l'Iroise, je dirais, c'est-à-dire la grosse exploitation industrielle de goémon au large des Abers et sur l'archipel de Molène. Donc, en rade, l'exploitation de goémon a également été d'abord fortement discutée par ses effets négatifs et puis finalement quasiment abandonnée.
Donc, ce lien terre-mer en sens de récolte par les paysans s'est tari. Et en plus, l'agriculture qui voulait toujours maintenir ses rendements est passée à d'autres produits qui, là, ont impacté la qualité de l'eau, quoi.
Voilà, c'est que finalement la relation assez positive que je décrivais avec ces engrais qui vont permettre de faire un sol, ces amendements marins, ces productions marines qui vont permettre de faire un sol, donc une espèce de relation positive entre les deux, est brutalement rompue quand on fait rentrer dans les intrants agricoles, les engrais en fait, et les amendements, on fait rentrer de la matière qui vient d'ailleurs. Ça commence en fait assez tôt, ça ne va pas durer très longtemps. Ce sont d'abord les fertilisants qui nous viennent d'Amérique du Sud. C'est le guano. Donc les déjections d'oiseaux accumulées sur des millénaires au Pérou et au Chili.
C'est très naturel pourtant comme produit.
Oui, oui. Mais on exploite là-bas ça comme des mines. Ah, ouais, on les met dans des clippers, les fameux clippers, qui arrivent à Saint-Nazaire et à Nantes, qui remplissent des barges, qui permettent de remplir des barges. Et à l'époque, puisque le canal de Nantes à Brest est fonctionnel, qui arrivent à irriguer toute la Bretagne en nitrate chilien. Donc c'est déjà une rupture par rapport à la mer. On commence à mettre des intrants. Mais la vraie très grande rupture, finalement, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est l'arrivée de la chimie. La chimie va se développer. Alors, la production des nitrates, c'est une production issue des technologies de la guerre. Hein, c'était pour faire des explosifs. Mais on s'aperçoit que c'est super pour l'agriculture. On a du nitrate et on commence à en mettre. Et donc, dès les années 50, on a cette rupture de continuité entre la nature marine et la nature terrestre, puisque finalement, autant prendre du nitrate de la chimie, c'est moins cher, ça va plus vite, et on en met partout. Et donc, cette relation qui était assez fertile et même sociologique entre la terre et la mer est brutalement rompue. Et vu de la mer, la terre, ce n'est plus qu'une source d'ennui.
De pollution.
De pollution. Alors évidemment, on parle des nitrates. Le marin... voit le bassin versant comme quelque chose d'extrêmement négatif qui lui envoie des polluants qui ont été introduits par l'extérieur. Et au-delà des nitrates, ensuite, c'est la problématique de la chimie, des pesticides, etc., etc. Mais donc, on a rompu ce... Alors, on est à ce moment-là, en fait. On est à ce moment-là. On est passé donc d'un système sociologiquement fertile, terre-mer, avec également dans les familles la plus réactivité. Dans une famille, on pouvait avoir...
Oui, on n'a plus de paysans-pêcheurs, alors,
voilà.
Du coup.
On avait des paysans-pêcheurs jusqu'à cette période-là, avant la Seconde Guerre mondiale. On avait dans une famille un paysan et un pêcheur, éventuellement, des frères, des sœurs, etc. Et là, on passe dans un système totalement déconnecté. Et si on veut réussir, quand on revient au sujet qui est restaurer la rade de Brest... Mais il faut refaire cette communauté.
Mais oui, mais comment alors? Parce qu'on se dit, si on peut plus, si les paysans peuvent plus aller chercher le goémon, le merle, etc. Voilà, comment est-ce qu'ils vont pouvoir recréer un lien avec la mer?
Alors, c'est bien la difficulté, parce que on peut montrer des courbes de nitrate et expliquer à des
agriculteurs. Ouais, on a toutes les connaissances scientifiques, maintenant voilà. On sait.
L'assurance, elle est là, etc. Ouais. Mais on peut passer des années à montrer des courbes, ça ne fait pas forcément agir. Donc, aujourd'hui, clairement, c'est pour ça que tout à l'heure, nous parlions du conseil scientifique de TerraRad, dans lequel les sciences humaines ont vraiment une place importante. Bien, cette idée, c'est que peut-être qu'au-delà de la connaissance scientifique stricte, c'est être capable de recréer une communauté humaine, du politique, du professionnel de la terre, du professionnel de la mer, du scientifique, etc., du jeune, de l'école, etc., tout le monde. Et recréer une communauté qui s'approprie le sujet. Et enfin, personnellement, on a fait des réunions à Plébin, etc. On est monté dans les terres, je veux dire. Et c'est intéressant de provoquer un peu. Moi, j'avais un peu cette habitude de provoquer en disant, je vais devant Madame la maire de Plébin, lui dire merci de nous accueillir dans une commune au bord de la rade de Brest. Je pense que c'est ça qu'il faut commencer à comprendre, c'est que le destin de notre système, mais de la Bretagne, la Bretagne est presque entièrement littorale,
ben c'est ça,
mais,
oui.
Mais le destin, c'est cette capacité à réconcilier la terre et la mer, les gens de la terre, les gens de la mer, et qu'ils s'approprient ensemble ce magnifique objet, finalement, qui est ce littoral, ces eaux fertiles, qui dépendent profondément de ce qu'on va faire dans les champs, etc. D'ailleurs, on a, nous, dans le comité scientifique de TerraRad, une espèce de pas de slogan, comment on appelle ça, un motto, une phrase un peu de référence, c'est le destin de la rade de Brest dépend du soin que l'on apportera au sol des étendues qui entourent la rade de Brest. Donc vraiment, il faut qu'on y arrive et voilà, ce lien qu'il existait par les fertilisants, etc., il n'existe plus, il faut le retrouver. Alors, au-delà de la science, il faut probablement, et on voit bien que beaucoup d'organisations, d'associations, de politiques pensent qu'il faut faire communauté à travers un peu d'émotion. Il faut de l'émotion. Il faut aimer ça. Il faut aimer sa rivière. Il faut aimer la rade de Brest.
Est-ce qu'il faut emmener les agriculteurs faire des tours en bateau?
Mais voilà. Mais non, mais ça n'est pas qu'une question objective d'économie optimisée. C'est autre chose. La vie, c'est autre chose qu'une économie. C'est un plaisir, un bonheur. On sait, par exemple, et c'est assez intéressant, c'est des publications récentes, qu'il y a un lien direct, c'est étonnant, hein, ça a été fait dans l'Europe du Nord, un lien direct entre le niveau de biodiversité d'un lieu et l'état psychologique des gens qui y habitent.
C'est-à-dire que s'il y a de la biodiversité, ils sont heureux.
C'est fantastique. Bon. C'est fantastique, mais c'est tout à fait
C'est pas tellement étonnant, finalement.
Pas tellement étonnant, mais c'est scientifiquement démontré que notre humeur dépend de la qualité de l'environnement qu'on voit par notre fenêtre, qu'on entend avec nos oreilles, etc.
Et même notre santé physique aussi, je crois.
Donc voilà, il faut retourner vers des choses comme celle du sensible, de l'émotion. Et donc ça, c'est des projets que nous avons en croisant scientifiques, politiques, associations, agriculteurs, pêcheurs, c'est de trouver les moyens, autour de la rade de Brest, de recréer ces dynamiques humaines et arrêter cette espèce de guerre stérile, finalement. Voilà, dès qu'il y a un problème d'algue verte, tout de suite, c'est les tensions. Ouais. OK, mais on n'a pas bougé depuis 40 ans sur ce sujet.
Oui, ça n'avance
donc,
pas,
voilà,
ça ne fonctionne pas.
Il faut repenser, s'approprier ensemble quelque chose, et je crois que c'est ça les grands défis, en fait. Plus que la connaissance scientifique absolue, c'est refaire communauté.
Et donc, ça peut passer par, notamment, les artistes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je pense que les artistes, d'abord, pour nous, scientifiques, c'est important de les côtoyer, parce qu'ils ont d'abord une démarche comparable. Ce sont des chercheurs. Les artistes sont des chercheurs avec des moyens très différents, avec des constructions différentes. Mais ce sont des chercheurs qui regardent, nous, notre recherche scientifique, avec, alors je vais pas de meilleur mot, une forme de naïveté qui nous provoque et qui nous fait réfléchir sur notre propre recherche. Et puis je pense que l'artiste, en fait, il s'adresse à tout le monde. Et je pense que faire travailler un artiste, alors là, on réfléchit à des projets sur les rivières, la rivière de la source à la rade de Brest, s'approprier ensemble à travers l'art, à travers l'émotion, à travers le dessin, à travers la musique, à travers la danse, etc. S'approprier des éléments naturels de cette importance-là, donc de la source à la mer. Donc on peut imaginer que réunir des communautés d'enfants ou de vieilles personnes dans les EHPAD, travailler avec elles, peut-être près des sources. Allons à Calac et parlons de la mer, parlons de la rade de Brest, parlons du ruisseau.
C'est ce que font les atlas socioculturels, d'ailleurs, qui sont en cours avec la région, notamment. Enfin, nous, notre radio travaille sur un atlas socioculturel, celui de la rivière Aber, voilà. Et puis, il y a aussi le LAPIC avec l'EPAB dans la baie de Bernonnet.
Tout à fait. Bah, écoute, il faut s'associer avec ce type de démarche, évidemment. Je pense que... Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est une reconstruction, mais c'est une belle ambition.
Et puis il y a la littérature, vous pouvez aussi écouter le podcast, toujours en cours, qui s'appelle Littoraux Poétiques, avec les liens là, entre les scientifiques et ce qu'ils ont lu. Mais c'est exactement la même démarche. Merci beaucoup Yves-Marie Paulet. Bon, on va suivre ça de très près sur Radio Évasion Transistor. À bientôt.
Merci beaucoup à vous.